gathered together in bands. The bleeding hearts of the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Radio Cagno présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, L'été brûlant. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Sylvain Perrier se réveille et s'étire dans son lit. Les persiennes disjointes montrent qu'il fait déjà jour et soleil. Ce sera encore une belle journée de juillet. Il sort de son lit. Il est en slip blanc, grand, mince, les cheveux châtains qui ondulent, mais courts, de beaux yeux bleus, profonds, un petit nez qui lui donne avec ses joues, un visage encore enfant. Sylvain, avant de sortir de sa chambre, jette un regard sur le cahier qu'il a laissé ouvert sur son petit bureau. C'est un problème de maths qu'il a essayé de résoudre durant toute la soirée d'hier. Il n'a pas réussi. Et puis ses pensées étaient ailleurs. Ses parents venaient de le quitter pour un voyage au Canada. Pour la première fois, il se retrouvait seul. Il ferme le cahier et sort de la chambre. Cela lui paraît bizarre, ce calme. Il n'y a pas sa mère qui lui dit de se dépêcher. Le bruit que fait son père pour partir. Non, rien. Les volets sont encore fermés. Il a l'impression d'être dans un musée. Arrivé dans la salle de bain, il quitte son slip. Il jette à terre, entre dans la baignoire et se douche. Ce matin, il peut prendre sa douche à l'eau chaude, très chaude, comme il aime. Sa mère n'est pas là pour lui interdire à cause de la buée. Cela fait du bien, cette eau sur son corps. C'est comme une caresse. Après avoir passé un bon moment sous la douche, il sort de la baignoire, prend une serviette éponge pour s'essuyer. Remet son slip. Et sort de la salle de bain. Il est heureux d'être seul. C'est la première fois que ça lui arrive. Ses parents n'ont pas voulu qu'il aille avec eux au Canada parce qu'il avait arrêté son bac et que pendant les vacances, il doit travailler. Cela l'ennuyait de ne pas pouvoir partir. Mais dès qu'ils sont partis, il s'est senti libre. Bien. Un mois seul, quelle tranquillité. Malheureusement, il ne sera plus vraiment seul. Dans une heure, il doit aller chercher son cousin à la gare. En prenant son petit déjeuner à la cuisine, un grand bol de café avec beaucoup de sucre, il pense qu'il aurait peut-être mieux aimé être seul. Il aime bien Cyril. Ils ont le même âge tous les deux. Mais à chaque fois qu'il s'est trouvé près de lui, il a ressenti une sorte de gêne. Il n'ose pas le regarder. Il est trop lumineux. Puis il a un regard et un sourire qui vous fend le corps, vous rend mélancolique. Cyril a toujours été comme cela, même enfant. Même enfant devant lui, il se sentait tout petit. Souvent la nuit, il vient hanter ses rêves. Il veut le toucher, mais il s'éloigne. Dehors, à 10h du matin, sous un ciel bleu, les rues du Lyon sont étouffantes. En sortant de l'immeuble, cossu où se trouve l'appartement de ses parents, il entre dans sa petite R5 rouge que ses parents lui ont achetée. Cela fait 3 mois qu'il a son permis. Il a arrêté sa voiture le plus près possible de la gare Perrache. Avant d'entrer dans la gare, il se regarde à travers la porte d'entrée. Son pantalon blanc et sa chemise marine lui vont. beaucoup de monde dans la gare. Sur le panneau d'affichage, je regarde le quai où doit arriver le train. Et il va s'y rendre. Sylvain aime les trains, les gares. Cette fois-ci, il est inquiet. Ne va-t-il pas être gauche et ignare devant son cousin? Que vont-ils faire de leur journée? Que va-t-il penser de sa vieille voiture et qu'il a raté son bac? Comment vont-ils faire pour la salle de bain le matin et les repas vu qu'il ne sait pas cuisiner? Et si je suis muet comme une carpe devant lui? Enfin le train arrive. Mon Dieu, comme il y a du monde, comment vais-je faire pour me retrouver avec tous ces gens qui vont et viennent, descendent? Il y a du monde qui descend et monte. Mais il a tout de suite reconnu, à peine sorti du train, avant qu'il ait descendu les marches, va à sa rencontre, se reconnaissent, se font signe. Sylvain est très ému. C'est vrai qu'il est lumineux et beau. Il est grand, mince, les cheveux blonds, le visage d'une beauté parfaite. Sa peau est légèrement dorée par le soleil, ce qui fait encore plus ressortir ses yeux et ses dents d'une blancheur immaculée. Il porte un costume d'été et à la main une valise en cuir marron. Lorsqu'il est devant Sylvain, Sylvain n'ose pas ouvrir la bouche. Bonjour Sylvain. Bonjour Cyril. Merci d'être venu me chercher. Oh, ce n'est rien. C'est la moindre des choses, surtout que j'ai une voiture maintenant. Tu as une voiture? Et c'est quoi? Oh, une occasion que mon père a acheté, une R5. Et ils sortent de la gare. Sylvain le mène à la voiture. Voilà, c'est celle-là. Elle est bien. J'aimerais bien en avoir une comme celle-là. Mais moi, j'ai pas mon permis. Je l'ai raté. Je suis pas aussi sérieux que toi. Tu parles, moi c'est mon bac. Et ils entrent dans la voiture. Rentré dans l'appartement, j'ai pas ouvert les volets, je me suis levé tard. Ma chambre n'est pas faite, j'ai laissé du désordre dans la salle de bain et la cuisine. Mère m'a dit que je devais te donner la chambre d'amis. Cyril suit Sylvain qui le mène dans la chambre d'amis. Sylvain ouvre la porte de la chambre. Cyril soupire. Je croyais qu'on allait vivre ensemble. Si je couchais dans ta chambre, on aurait pu discuter la nuit. Ça aurait été plus chouette, non? Sylvain est surpris. Partager sa chambre avec lui, et même avec quelqu'un d'autre, n'y avait jamais pensé. Mais surtout, pas avec Cyril. Cela risque d'être gênant. Cyril, qui l'intimide tant, il risque de sentir sa présence près de lui. Et Cyril serait surpris de son trouble. Et puis, il n'y a qu'un lit. Et avec lui dans un lit. À quoi penses-tu? Je me disais que ce n'était guère possible parce qu'il n'y a qu'un lit. Ça n'a pas d'importance. On met un matelas par terre. Tiens, celui de la chambre d'amis. Bon, si tu veux, Et Sylvain s'apprête à défaire le lit. Et amener le matelas dans sa chambre. Cyril, qui l'a accompagné, lui dit « Attends, si tu permets, j'étouffe un peu. J'aimerais enlever ma veste et boire un verre d'eau. » Ils vont à la cuisine. Sylvain ouvre les volets. Cyril s'assoit à table. Sylvain lui sert un verre d'eau glacée et du pamplemousse. Puis il s'assoit à côté de lui. Elle lui demande « Si c'est bien passé ton voyage à Biarritz ?» Cyril fait la grimace. « J'y suis allé avec une copine, mais nous sommes un peu chamaillés pour des riens comme ça. Le climat devenait lourd, insupportable. Et nous nous sommes quittés un peu tristement. Ça m'embête, parce que j'y tiens. Je suis inquiet, j'ai hâte qu'elle m'écrive. » Car j'ai peur qu'elle me laisse tomber. Au lieu d'attendre, tu ne peux pas lui écrire ? Non, car elle est partie avec ses parents. Ils font un parcours jusqu'en Suède. Et toi, tu n'as pas de petite copine ? Sylvain rougit. Non, tu as déjà baisé ? Sylvain hausse ses épaules. Il faut que tu le fasses. Tu verras, c'est bon. Après avoir bu 3 verres, Cyril s'étire. C'est bon de baiser, mais les filles sont chiantes. Qu'est-ce qu'on fait? On arrange la chambre et cet après-midi, si on allait se tremper dans l'eau. À la piscine? Demande Sylvain. Oh non, surtout pas. Au grand large, si tu veux. Oui. Sylvain se lève et dit « On va faire la chambre » et ils sortent de la cuisine. Après avoir mangé salade de tomates et un beefsteak, ils sont partis avec la R5 pour le grand large. Il y a du monde, mais ils ont trouvé un coin tranquille. Ils ont arrêté leur voiture sur un chemin, puis ont nagé jusqu'en bout de terre, une presqu'île, avec quelques arbres et de l'herbe. Elle est déserte, ils s'allongent sur l'herbe, enlèvent leurs pantalons, ils avaient dessus, des maillots de bain collants. Sylvain l'avait bleu marine et Cyril blanc. Ils ont tous les deux les jambes et la poitrine imberbe, la peau très lisse. Sylvain n'a pas regardé son cousin, son corps le trouble, la honte et se sent moche à côté de lui. Et puis, de toute façon, la lumière est tellement forte qu'ils sont obligés de fermer les yeux. Je crois que si elle me laisse tomber, je me mettrai à chialer comme un môme, dit Cyril. Tu t'es tellement attaché à elle? Oui. Alors pourquoi vous êtes-vous chamaillé? Se sont allongés tous deux, l'un côté de l'autre. Moi, j'avais envie d'être seul avec elle. Et ne songeait qu'à être entouré, de la voir papillonner au milieu de tout ce monde, et moi qui semblais ne plus compter pour elle. Alors, bien sûr, je me suis mis en colère. Elle ne comprenait pas que je la veuille pour moi toute seule. Elle disait que j'étais un sale égoïste, que je ne pensais qu'à moi et qu'il fallait qu'elle soit ma chose. Moi, je souffrais de cette dispute. Je disais non, que je pensais à son bonheur et que je l'aimais. C'est pour cela que je la voulais heureuse et près de moi. Sylvain sent que Cyril a la gorge serrée et qu'il est prêt à pleurer. Il ouvre les yeux et penche la tête vers lui. Cyril regarde droit devant lui, les yeux mouillés de larmes. Cela l'attriste. Il n'aime pas le voir ainsi, mais en même temps, il sent une pointe de jalousie. Nous nous sommes quittés fâchés. Sylvain a pitié de lui et veut le réconforter maintenant. Il aimerait le prendre dans ses bras et le bercer, mais il n'ose pas tendre le bras. Et il dit, il ne fait pas de soucis, Cyril. Quelle est la fille qui voudrait rompre avec un garçon comme toi? Elles sont très folles. Ça, c'est toi qui le dis. Mais je suis sincère, Cyril. Je suis sincère. Il se tourne vers lui et lui dit « Merci, tu es un chic type. On va se baigner. » Ils se lèvent tous deux et vont jusqu'à l'eau. Ils sont beaux dans ce paysage de lumière où l'eau a des reflets dorés, ce qui les rend irréels lorsqu'ils entrent dans l'eau. Lorsqu'ils sortent de leur bain, la petite presqu'île s'est vue débarquer une famille nombreuse. Cyril lui dit, on rentre? Oui, oui, on rentre. Une fois dans l'appartement, qui lui aussi baigne de soleil, on ne se dirait pas à Lyon, mais dans une villa au bord de la mer, à cause de ses baies vitrées, de ses murs blancs. Les rideaux de lin blanc ont été tirés, ce qui fait que l'on ne voit pas la ville. sont entrés au salon et ils ont pris dans la bibliothèque chacun une bande dessinée. Ils se sont assis sur le parquet, le dos au mur. La journée s'est passée ainsi. Sylvain n'a pas touché à ses cahiers. Tout en lisant, il pensait à Cyril et se disait surpris de le voir souffrir d'amour. Lui qui pensait que c'était les autres qui souffraient d'amour pour lui. À 23 heures, après avoir vu quelques films en vidéo, des films hard, il décide d'aller se coucher. Cyril dit : je prends une douche et il va dans la salle de bain en laissant la porte ouverte. Sylvain attend dans la chambre pour prendre sa douche. Il entend ce cousin se déshabiller. Ouvrir le robinet d'eau. Sylvain, peux-tu s'il te plaît m'apporter un gant et une serviette ? Sylvain sort de la chambre pour aller dans la chambre de sa mère et prendre dans l'armoire un gant et une serviette. Arrivé devant la porte de la salle de bain, il est subjugué. Il est subjugué. Cyril est debout dans la baignoire, le corps nu, ruisselant d'eau. C'est la première fois qu'il le voit ainsi. Tu me passes le gant, s'il te plaît. Sylvain s'approche de lui, tremblant et ému. Il ose à peine le regarder. Il lui tend le gant. Merci. Lui, Cyril, semble naturel. Il mouille le gant et le passe sur le savon. Sylvain s'en retourne. Mais il entend « Sylvain !» Il se retourne. Cyril lui sourit. « Je me sens mieux, tu sais. J'ai confiance et c'est grâce à toi. » Ah, à ce que tu m'as dit cet après-midi. T'es gentil, t'es un chic type. Tout en parlant, Cyril passe le gant sur son corps et Sylvain suit le gant sur la poitrine, les cuisses, le sexe long et blanc, au milieu d'une touffe blonde, les jambes. Il est troublé par tout ça et en même temps il a honte. Car son trouble se dévoile en entier pour la première fois. Il désire son cousin. Il désire son cousin. Et se dit en même temps que ce n'est pas possible. Tu es un chic-type, Sylvain. Tu es vraiment un chic-type. Cette phrase le fait sortir de sa torpeur. Elle lève la tête. Cyril lui sourit. Il a honte de ce sourire, car en même temps, il se sent coupable. Coupable comme Judas de n'être pas digne de l'amitié de son cousin. Après avoir cette savonnée rincée, Sylvain ne peut s'empêcher de le regarder. Il passe sa serviette et il la lui donne. Sylvain aimerait être cette serviette qui se frotte le long de ce corps. Puis Cyril sort nu de la salle de bain. Allé dans la chambre. Sylvain s'approche de la baignoire. Elle est pleine de gouttes au fond, de gouttes d'eau, de mousse de savon et quelques poils blancs au fond, au milieu. Et au lieu que ça le dégoûte, ça le fascine. Cyril lui dit de la chambre. Tu prends ta douche? Oui. Il se déshabille. Entre dans la baignoire. Se mouille et prend le gant dont s'est servi Cyril pour se savonner. Il se dit, je suis complètement fou. Ensuite, il est sorti de la salle de bain en peignoir. Il retrouve Cyril dans la chambre. Il est couché sous les draps. On voit son torse nu, les bras sous la nuque. Le matelas était mis au pied du lit. Cyril lui sourit. Et en peignoir, on dirait que tu descends des nuages. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est la première impression que j'ai en te voyant. Sylvain va vers son lit. Quitte le peignoir qui tombe à terre. Il est en slip blanc. Il a l'impression d'être regardé. Puis, il se met sous les couvertures. Cyril lui dit, ferme la lumière si tu veux. Il éteint la lampe de chevet. Il entend Cyril lui dire, bonne nuit, je sommeille, c'est le voyage. Et il entend qu'il se met en place pour dormir. Bonne nuit. Sylvain, les yeux grands ouverts, écoute le silence de la pièce. Il n'ose pas bouger. Tout d'un coup, il entend le souffle régulier de son cousin. Ce souffle envahit, brûle son corps, trouble sa vie. Il semble être pris pris par ce souffle régulier, les pris par une grande douceur qui le berce et l'emporte. Sa vue se trouble. Mais un sommeil agité, pris par ses rêves, il voit des cuisses, des jambes, des poitrines, une peau lisse et douce, et le sourire de son cousin. Cela le réveille au milieu, en sueur et boudeur, et à chaque fois, il se demande ce qui lui arrive. Jusqu'à présent, j'étais comme les autres. Ai-je changé? Pourquoi ce désir? Pourquoi ce désir? Je suis fou. Je dois me reprendre. Je ne peux pas me laisser tomber. À chaque fois, malgré lui, il est pris par le désir de revoir ses images. Et il les retrouve avec délice. La lutte a duré toute la nuit, ce qui fait qu'au matin il a mal dormi. Mais il se réveille avant son cousin. Le jour vient à peine de se lever. Il n'a plus sommeil. Il entend encore le souffle régulier de Cyril. La chambre a une odeur chaude de peau, ce qui en plus du souffre l'enivre encore plus. Sylvain se demande comment va être la journée avec lui. Il souhaite la voir près de lui, mais en même temps il a peur et honte de ce qu'il ressent. Surtout qu'il ne le sait jamais, jamais. Une demi-heure plus tard, il entend bouger les draps qui se tirent.
Tu es réveillé, Sylvain?
Oui, salut, bonjour. Cyril s'étire. Sylvain demande, bien dormi?
Oui, oui.
Qui s'étire. Il s'imagine ce grand et beau corps sous les draps. Cyril demande
« Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?»«
Je ne sais pas. » Cyril dit « On se lève, j'ai faim. » Oui, et ils se lèvent tous deux. Cyril est nu et va et vient dans la chambre sans gêne. Sylvain ne peut s'empêcher de le regarder. Il plie le drap et range le matelas contre le lit, puis prend dans sa valise un rasoir électrique. Sylvain est surpris. Tu te rases? Oui, une fois par semaine. Et il sort de la chambre pour aller dans la salle de bain. Ce matin, il décide de ne sortir que l'après-midi. Sylvain étudiera et Cyril lira. En fin de matinée, Sylvain est allé à la boîte aux lettres. Il y a une carte de ses parents et une lettre pour Cyril. Il va donner la lettre à Cyril qui est assis à terre à lire une bande dessinée. Tiens, c'est pour toi. Cyril la prend. Merci. Regarde, j'ai reçu une carte de mes parents. Cyril la regarde et dit « Ça doit être bien le Canada. » Puis, il ouvre la lettre. C'est de la fille. Sylvain se retire pour aller dans sa chambre étudier. À peine arrivé, Sylvain ne veut plus me voir. Sylvain court. Cyril est toujours assis à terre, la lettre à la main, le visage bouleversé. Il s'approche de lui. Tu es sûr? Tiens, lis. Sylvain prend la lettre. C'est une lettre écrite avec du papier ordinaire, écrite au stylo à billes bleues, mise en page et écriture enfantine. Sylvain souffre, car il voit d'après tout ça ce qu'elle est, que c'est une fille qui ne va pas à la cheville de Cyril. Il se dit, elle ne mérite pas qu'il souffre pour elle, il est mille fois mieux qu'elle. Oui, la lettre annonce bien une rupture, il n'y a pas à discuter. Elle ne veut plus entendre parler de lui. Sylvain se dit, encore une qui cherche à s'amuser et à connaître des hommes plus vieux, qui n'y pense plus. Elle le regarde et le voit abattu. Il a pitié de lui, il ne peut pas le laisser ainsi. Il s'assoit en face de lui, met la lettre à terre. Je comprends que tu souffres, Cyril. Tu sais comme je l'aime. Oui, je le sais. Il n'y a qu'à te le voir. Mais il faut que tu surmontes cette épreuve. Tu es jeune et tu as droit à d'autres amours. Non. Ne dis pas cela. C'est la vérité, tu le sais comme moi. Et puis, je ne la connais pas. Je ne veux pas la juger. Mais une fille qui laisse tomber un garçon comme toi. Cyril se met à crier et à faire un geste de la main pour l'écarter. Je t'en prie, elle vaut mille fois mieux que moi. Sylvain ne sait que le faire. Il est triste, baisse la tête, penaud, se sentant inutile. Il se lève et sort de la pièce. Dans sa chambre, il s'assoit pour travailler, mais il ne peut pas. Alors, il reste sur sa chaise sans bouger. Sans bouger. Au bout d'un moment, il entend Cyril se lever et aller vers lui. Il est derrière lui, lui met la main sur l'épaule et lui dit « Je te demande pardon. » Puis, il va prendre une chaise et s'asseoir à côté de lui. J'étais triste, je ne savais plus où j'en étais. Tu es gentil, tu as cherché à me consoler. C'est normal, Nous sommes tous pareils dans ces cas-là. Toi aussi. Pas vraiment. Mais je crois que j'agirais de la même façon. Cyril lui demande. Tu as aimé ? Non. Mais la personne que j'ai aimée ne le saura jamais. Et il regarde Cyril. Et demande à Cyril, « Ça va maintenant ?»« Il le faut, mais c'est dur. » Sylvie tient à le distraire. « On va manger ?»« Et après-midi, on va nager ?»« Oui. » Et ce soir, nous sortirons. Cela te fera du bien. Cyril fait oui de la tête. Après le repas, ils sont allés au grand large, au même endroit que la dernière fois. Il faisait aussi chaud. Ils ont nagé. Ils se sont étendus au soleil. Essayer de parler cinéma, musique, mais le corps n'y était pas.
Au moins 15 pour que je t'arrive complète.
Oh là là.
Ah, et à 25, t'es bon pour les Olympiades.
Il va pas vite, c'est
une soirée de bonnet, ça. À 18h, ils sont allés dans un bar. Manger. Et Sylvain l'a mené dans une boîte. Du premier arrondissement. C'est une espèce de bar en fumée sombre, avec foule et musique. Ce soir, il n'y avait pas de groupe de jazz, alors on passait un peu n'importe quoi. Ils se sont faufilés à une table, ont commandé deux bières. Sylvain dit, c'est pas plus tard qu'ailleurs. Un grand mec habillé de noir, cheveux longs, chantin, dans les 22 ans, s'approche de leur table. Salut Sylvain. Salut Franck. Cyril, mon cousin. Franck, un gars de la fac. Il est juif et il a été dans un kibboutz. Compte. Franck s'assoit à leur table, commande une bière. Sylvain lui demande, qu'est-ce que tu deviens, Franck ? Eh bien, je squatte avec des copains et puis nous faisons une émission de radio à Radio Canu. C'est quoi comme émission ? Entre deux disques, on lit des extraits de livres. Sylvain voit que Cyril ne suit pas la conversation et qu'il boit beaucoup. Il fait un coup d'œil. Franck leur dit, les venir chez nous seront mieux pour discuter. Sylvain se dit que ce serait mieux pour Cyril. Oui, je veux bien. Et ils sortent du bar. Cyril les suit légèrement amochés. Franck les emmène dans un vieil immeuble délabré sur les pentes. Il pousse la porte de l'allée. Sans le moisi. Les escaliers sont pleins de détritus. Il y a des fils électriques arrachés. Sur les paliers, les portes sont défoncées. C'est au dernier étage que Franck les fait entrer dans un appartement. Tapisserie déchirée, saleté à terre, vitre brisée. Il les fait entrer dans une pièce nue. Il les fait asseoir à terre. Allume deux bougies qui met à terre à côté d'eux, puis s'assoit en face d'eux. Vous voyez, c'est ici que je loge. C'est tranquille, pas de loyer, rien. Sylvain demande. L'immeuble va être démoli. Oui, dans 6 mois. Après, j'irai ailleurs. Cyril semble morose. Digère les verres de bière. Sylvain et Franck parlent pendant 2 heures de choses et d'autres. Sylvain observe de temps en temps Cyril. Il se demande s'il ne devrait pas partir. Franck dit, si tu permets, je vais en prendre une. Il se lève et sort de la pièce. Il revient. Avec une seringue, un sachet, des allumettes, de l'eau et un citron. Il pose le tout à terre et se prépare. Sylvain lui dit, pourquoi est-ce que tu en prends? Pour oublier, c'est un seul moyen. Il se pique. Tu en veux? J'ai une autre seringue dans ma poche. Moi, j'en veux. Sylvain regarde Cyril qui vient de parler. Non, Cyril. Et pourquoi? C'est la seule façon d'oublier. Je veux oublier. Non, Cyril. Pendant ce temps, Franck en prépare une autre. Cyril dit, si, je suis libre tout de même. Ça va te rendre malade. Ou peut-être plus. Il sait ce que je veux. D'un geste brusque, il prend la seringue qui est à terre et se pique au bras. N'importe comment. Ça a été si vite que Sylvain n'a rien pu faire. Non, Cyril. Franck lui prend le bras et lui dit, il s'est piqué, c'est pas grave. Il dormira mûrement. Et puis c'est tout. C'est tout. Sylvain est effondré. Il en veut à Franck et un peu à Cyril. N'aie pas peur. Ton copain demain matin, il sera frais comme une rose. Laisse-moi, c'est ta faute. Il regarde Cyril qui ne parle pas. Fronce ses sourcils, blanchit. Il dit, ça va Cyril? Il ne répond pas. S'il lui est arrivé quelque chose, je te le pardonnerai jamais. Alors Sylvain se lève et lève Cyril. Il est obligé de le soutenir. Ça va aller, Cyril? Ne répond pas. Il semble dans les vapes. Ils sortent de l'appartement. Et ils descendent les escaliers. Sylvain le tient toujours. Dehors, Sylvain voit qu'il se tient de moins en moins sur ses jambes. Il se tient le ventre. Tu as mal au ventre? Ne réponds pas. Il réussit à le mener jusqu'à la place des terreaux et là, ils prennent un taxi. Il ne va pas me vomir sur mon siège, ton copain.
Non, il est fatigué, c'est tout.
Arrivé, il a tout juste eu le temps d'ouvrir la porte. Il sent que Cyril va vomir et le mène en vitesse au vaisseau.
Ah.
Puis il lui nettoie son visage avec un gant et l'alcool. Cyril ne tient plus debout. Il le couche dans le lit. Et lui prend le matelas, le déshabille comme il peut et le met sous les couvertures. Il est livide, tremble à des gouttes de sueur. Sylvain les lui essuie, le couvre plus. Mon Dieu, que faut-il faire? N'ose pas appeler le médecin à cause de la drogue et des parents. Radio Canews a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Été brûlant, dont c'était la première partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRB.